Luc, chapitre 22, versets 40 à 42. Et quand il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous n'entriez pas dans la tentation. » Alors il s'éloigna d'eux d'environ d'un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il priait en disant « Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. » Bonjour à tous, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse en vous souhaitant un bon sabbat. Nous sommes sur la quatrième partie de notre série intitulée « Apprends-nous à prier ». La fameuse prière que Jésus nous a confiée afin de diriger notre esprit pour savoir ce que nous devrions dire lorsque nous prions et ce que nous devrions désirer et demander à Dieu dans la prière. La partie que nous souhaitons contempler aujourd'hui, cette quatrième partie, porte, comme vous l'aurez déjà probablement vu dans le titre, ce passage que nous avions vu premièrement lu dans Luc chapitre 11, versets 1 à 2, tout particulièrement le verset 2, je le relis pour nous ici. Un jour que Jésus était en prière en un certain lieu, après qu'il eut achevé de prier, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a aussi enseigné à ses disciples. » Et il leur dit, quand vous priez, dites. Quand vous priez, dites. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je passe le reste parce que nous aurons l'opportunité, l'occasion, je devrais dire, d'y revenir par la suite dans la partie numéro 5 et 6 et 7. Nous avons encore, en tout, 7 parties. Ce qui nous intéresse, c'est la dernière partie du verset 2 où il dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». C'est l'objet de notre étude aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs, lorsque nous prions cette prière? Et, plus encore, qu'est-ce que cela devrait signifier? Car peut-être que aujourd'hui, lorsque nous la prions, elle n'est pas dans notre esprit ce qu'elle devrait être et ce qu'elle devrait vouloir dire, dans le sens que Dieu l'a voulu et pour lequel Dieu l'a donné. Et dans un ordre peut-être inattendu, j'aimerais que nous nous concentrions d'abord sur la fin de cette partie de la prière du Notre Père, à savoir « comme au ciel ». Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que, qu'est-ce que cela veut dire, comme au ciel? Et plus encore, on devrait peut-être demander, comment est-ce que la volonté de Dieu est faite au ciel? Parce que la prière que nous sommes appelés à adresser à Dieu, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que ta volonté soit faite sur la terre comme ta volonté est faite dans le ciel. N'est-ce pas? Et comment la volonté de Dieu est-elle faite dans le ciel? Pour répondre bibliquement à cette interrogation, nous nous tournons vers les paroles du psaume 103. Le psaume 103. Versets 20 et 21. Où il est écrit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, puissants en force, qui exécutez son commandement en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, etc., dans tous les lieux de son empire. Qu'est-ce qui est déclaré par la parole de Dieu au sujet des anges et de ce qu'ils font dans le ciel? Je le relis, bénissez l'Éternel, vous ses anges, puissants en force, bénissez-le, nous dit la parole de Dieu, exprime le psalmiste. Vous qui exécutez son commandement, exécutez son commandement, en obéissant à la voix de sa parole, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, les armées du ciel, ce sont les anges encore une fois, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté, n'est-ce pas? Les anges de Dieu dans le ciel font la volonté de Dieu. Vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Les anges de Dieu sont les serviteurs de Dieu. Je crois que d'ailleurs c'est dans Hébreux chapitre 1 verset, quel verset je ne sais pas, qui nous dit que les anges sont des ministres. Voyons voir si j'arrive à le trouver. Ministre, oui c'est ça. Hébreux chapitre 1 verset 6 et ailleurs, quand il introduit dans le monde le premier engendré, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent, et quant aux anges, il dit, il fait de ses anges des esprits et de ses ministres une flamme de feu. Les anges sont les serviteurs, les ministres du Seigneur. Et il est écrit à leur sujet qu'en tant que ses serviteurs, ils font sa volonté. Donc, comment la volonté de Dieu est-elle faite au ciel? Elle est faite par ses anges. Et pour nous donner un ordre d'idée, parce que c'est déterminant vis-à-vis de la manière dont nous sommes nous-mêmes appelés à désirer et à prier que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, comment les anges font-ils la volonté de Dieu au ciel? Selon ces paroles que nous lisions dans le psaume, nous lisons, bénissez l'Éternel, vous ses anges puissants en force qui exécutez son commandement. Les anges exécutent, font la volonté de Dieu dans le sens où ils exécutent son commandement, ils sont des serviteurs, ils font partie de son armée dont lui est le Seigneur et le commandant. Parce que cela va de soi. S'il a un commandement, et qu'ils sont ses armées, il doit être leur commandant en chef, n'est-ce pas? Et eux, en tant que ses serviteurs, et pas simplement ses serviteurs, mais ses enfants, comme l'esprit de prophétie nous l'indique, car les anges ne sont pas simplement des serviteurs, mais bel et bien des enfants, en tant que ses serviteurs et en tant que ses enfants, ils exécutent son commandement, font sa volonté, obéissent à la voix de sa parole. Donc si nous voulons nous-mêmes et que nous prions que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est au ciel, nous devrions nous inspirer de la manière dont les anges font la volonté de Dieu au ciel, à savoir qu'ils obéissent à la voix de sa parole. Nous devrions faire la volonté de Dieu en obéissant à sa voix dans sa parole. Ça nous aide. Ça nous facilite la tâche, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la même parole qui fait autorité pour nous fait autorité pour les anges, et c'est cette parole à laquelle ils obéissent lorsqu'ils exécutent son commandement et qu'ils font sa volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. J'aimerais lire ici pour, en élargissement, la citation suivante qui se trouve dans Faith and Works, la foi et les œuvres, à la page 23 et au paragraphe 1er, où il est écrit ceci, toujours par rapport aux anges d'ailleurs. Dans le ciel, les anges de Dieu qui n'ont jamais péché font sans cesse sa volonté. Dans tout ce qu'ils font pour leur mission de miséricorde envers notre monde, protégeant, guidant et gardant l'ouvrage de Dieu depuis des siècles, tant les justes que les injustes, ils peuvent véritablement dire « Tout est à toi, de ta main nous vient ce que nous te donnons ». Si seulement l'œil humain pouvait voir le service des anges, si l'imagination pouvait saisir et s'attarder sur le riche et glorieux service des anges de Dieu et sur les conflits dans lesquels ils s'engagent au nom des hommes pour les protéger, les guider, les gagner et les arracher au piège de Satan, combien différent serait notre comportement et notre sentiment religieux. Si nous pouvions voir tous les conflits dans lesquels ils s'engagent afin de nous protéger, nous guider, nous gagner et nous arracher au piège de Satan, si nous pouvions voir comment les anges de Dieu font la volonté de Dieu, quel serait notre comportement et notre sentiment religieux, n'est-ce pas? Plus encore, j'aimerais lire la déclaration suivante qui se trouve dans l'histoire de la rédemption à la page 28 et au paragraphe 2, où nous apprenons ceci vis-à-vis de cette même volonté de Dieu qui, pour un temps, fut commencée à être faite sur la terre comme elle avait été faite au ciel par nos premiers parents. Vous le lisez ici. Voilà ce qui nous est écrit. Adam et Ève assurèrent les anges qu'ils ne désobéiraient jamais à l'ordre explicite de Dieu. L'ordre explicite de Dieu. Le commandement. La voix de sa parole. Adam et Ève assurèrent les anges qu'ils ne désobéiraient jamais à l'ordre explicite de Dieu. Car ils éprouvaient le plus grand plaisir à faire sa volonté. Les anges se joignirent à eux pour faire entendre les saintes harmonies d'une musique mélodieuse. Et tandis que leurs hymnes s'élevaient au-dessus du paradis de Dieu, Satan entendait ces accents de joyeuse adoration destinés au Père et à son Fils. À l'ouïe de ses chants, sa jalousie, sa haine et sa méchanceté furent plus vives que jamais et il suggéra à ses suppôts d'inciter Adam et Ève à désobéir afin que la colère de Dieu atteigne ceux-ci et que leurs hymnes de louange se changent en paroles de révolte et de malédiction envers le Créateur. Vous voyez ici la première atteinte de l'ennemi à l'accomplissement de cette prière que Jésus nous a donnée il y a 2000 ans, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Dans Adam et Ève, il chercha à compromettre l'accomplissement de ce projet de Dieu. Pourquoi? Quel était le but de ce projet? C'était que une nouvelle génération soit créée qui obéirait à la volonté de Dieu et qui pourrait ainsi remplacer le vide qui avait été fait par le tiers des anges qui fut chassé du ciel. Que ta volonté soit faite. Vous voyez un peu? Et donc, comme je l'ai marqué ici, la volonté de Dieu était faite sur la terre jusqu'à ce que nos premiers parents cèdent leur volonté à Satan pour faire sa volonté. Vous voyez? Quand ont-ils fait sa volonté? Lorsque Ève a soumis sa volonté à celle du serpent, en faisant ce que le serpent lui suggéra, quoiqu'il lui suggéra cela par ruse, elle finit quand même par faire la volonté du diable plutôt que de faire la volonté de Dieu. Quoiqu'elle fût trompée, si elle avait obéi, elle aurait pu échapper à la tentation et, aux conséquences de sa désobéissance. Et si vous allez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, nous élargissons cette pensée. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, il est écrit: mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. En se détournant de la simplicité qui est en Christ. C'est ainsi que nos premiers parents furent détournés de leur désir initial d'obéir à toute la volonté de Dieu. Initialement, c'est ce qu'ils avaient dit aux anges qu'ils feraient, mais c'est ce qu'ils n'ont finalement pas fait lorsqu'ils ont cédé la volonté à Satan. Vous le voyez. Comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent ainsi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. La volonté de Dieu est simple, mais les ruses du diable cherchent à nous détourner de la simplicité de l'obéissance à Dieu vers des chemins de traverse afin que nous puissions, en goûtant à l'arbre de la connaissance, non seulement du bien, mais du bien et du mal, que nous puissions nous détourner de l'accomplissement de cette prière de Jésus, phare, dans laquelle il disait, et il cherchait à nous faire également prier, à nous faire vivre, afin que nous accomplissions cette prière qui disait, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez? Et donc, à la lumière de l'échec de nos premiers parents, que nous connaissons si bien, et qui est exprimé en passant dans ce passage de 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, quelle est désormais la difficulté qui se présente à nous après avoir été nous-mêmes assujettis à la volonté d'un autre que Dieu? Parce que la difficulté à laquelle étaient confrontés nos premiers parents, elle était différente de celle à laquelle nous sommes confrontés désormais, maintenant que notre volonté a été assujettie à la volonté d'un autre que Dieu, avec toutes ces siècles de dégradation et de dépravation morale et de dégringolement dans la capacité à désirer, à faire le bien de par la faiblesse de notre chair humaine. Quelle est maintenant la difficulté qui se présente à nous et à laquelle nous sommes confrontés? Vous la voyez exprimée en partie dans le passage de Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7 et versets 18 à 20, il est écrit. Vous avez ici l'apôtre Paul qui parle d'une expérience que le chrétien fait. Pas l'inconverti, mais le converti. Il dit, je me concentre sur le plus important ici pour aller droit au but, il dit, car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir, car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Nous sommes en train de réfléchir à la volonté de Dieu ici, dans l'objectif et dans notre lecture. Que disait l'apôtre Paul ici? Lui à qui avait été révélée toute la gloire de la loi telle qu'elle est en Jésus-Christ, hein, telle qu'il exprimait ici au verset 8, mais le péché, au verset 7, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Nullement, au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'eusse point connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point, mais le péché prenant occasion du commandement a produit en moi toutes sortes de concupiscences, car sans la loi, le péché était mort. Pour moi, autrefois sans loi, je vivais, mais le commandement étant venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. Mais alors réfléchissez, parce que l'apôtre Paul, qui était jadis Saul ou Saül, je ne sais plus, était un pharisien, hein, un hébreu des hébreux, pharisien selon la loi, etc. Il faisait toutes ces choses qu'il fallait faire. Il persécuta l'église de Christ. C'est d'ailleurs pour cela qu'il se dirigeait vers Damas. Seulement, il dit au sujet de lui-même, moi, verset 9, pour moi, autrefois sans loi. Vous voyez? Donc, il avait une connaissance de la loi, mais ce n'est pas avant qu'il ait la connaissance de Jésus-Christ que la loi prit occasion du commandement pour produire en lui toutes sortes de concupiscences, comme c'est marqué au verset 8. La connaissance de la loi n'était pas la qu'il avait avant de connaître le Seigneur Jésus qui lui apparut sur le chemin de Damas, n'était pas la connaissance qui fut ensuite la sienne lorsqu'il eut la connaissance du caractère de Dieu tel que révélé en Jésus-Christ. Alors la loi vint, le péché reprit vie, verset 9, et moi, dit-il, je suis mort. Vous voyez? Et c'est en lien avec cette expérience-là qu'il commença à faire après avoir été confronté à la réalité de Jésus-Christ. C'est après avoir fait cette expérience-là personnelle de conversion qu'il exprime au sujet de son expérience ultérieure au verset 18, « Je sais que le bien n'habite point en moi. » Vous voyez un peu? Vous voyez? Ne serait-ce que cela en soi, ça met à bas toutes les conceptions selon lesquelles nous vivons toute notre vie d'une manière certaine de nous-mêmes et nous accumulons les décennies de faire toute la volonté de Dieu. Nous disons tout cela, je l'ai fait depuis ma jeunesse et nous arrivons vers la vraie révélation de la loi telle qu'elle est en Jésus-Christ et nous disons, je n'ai rien fait de la volonté de Dieu en vrai. En vrai. C'est ça que l'apôtre Paul a réalisé. Il disait, la connaissance que j'avais de la loi avant, ce n'était rien par rapport à ce qui est venu à moi quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus dans toute la réalité de sa personne et du caractère de Dieu. Il disait, le bien n'habite point en moi. Je ne peux pas faire selon ma chair, je ne peux pas faire le bien. Il n'habite point en moi. Et que disait-il pour nous éclairer? Parce que c'est aussi son objectif ici, par l'Esprit de Dieu. Il dit, parce que j'ai la volonté de faire le bien. Mais je ne parviens pas à l'accomplir. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas.
que si je fais le mal, que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Et donc il disait, je trouve donc cette loi en moi, c'est que lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc cela nous permet de répondre à la question qui était, que je vous avais posée, à savoir, quelle est désormais la difficulté qui se présente à nous après que nous ayons été assujettis à la volonté d'un autre que Dieu? Ce qui est le cas de notre race depuis la chute de nos premiers parents. Notre volonté a été assujettie à un autre que Dieu, et donc maintenant notre nature, depuis celle que nous avons héritée d'Adam et Ève, est déchue, et elle est exprimée par le fait que ce qu'il exprimait au verset 18, à savoir que le bien n'habite point en nous. Nos premiers parents auraient pu dire l'inverse, à savoir que le bien habitait en eux, mais que par leur négligence, surtout par la négligence d'Ève, ils désobéirent et se virent, pour ainsi dire, transformés dans leur nature, en une nature dans laquelle le bien n'habitait désormais plus. Ils avaient perdu leur robe d'innocence, comme on le voit dans l'esprit de prophétie. Dans Patriarches et Prophètes, il est écrit qu'ils ont perdu cette robe d'innocence, de lumière, et que ensuite, c'est pour cela d'ailleurs qu'ils ont dû se couvrir de feuilles de figuier. Ensuite, Dieu les recouvra, les recouvrit, les couvra tout simplement de robes de peau pour couvrir toute leur nudité. Et cela démontre qu'ils perdirent leur innocence, et en perdant leur innocence, ils perdirent également le bien qui était en eux. Et ils nous transmirent par héritage génétique, l'hérédité, cette nature déchue qui est égale aujourd'hui la nôtre, et par laquelle l'apôtre Paul lui-même, en son temps, même si c'était il y a 2000 ans, pardon, pouvait lui-même exprimer, le bien n'habite point en moi. Et ce que j'ai marqué ici, à juste titre, c'est que il s'agit ici du langage de celui dont l'esprit a été renouvelé par l'esprit et la grâce de Dieu. Car Éphésiens, le passage d'Éphésiens, chapitre 2, verset 3, nous apprend que l'homme inconverti accomplit les désirs de la chair et de ses pensées. Allez-y brièvement avec moi. C'est très important de comprendre cela parce que ça nous permet de voir qu'est-ce que cela va impliquer pour nous de pouvoir en toute réalité faire la volonté de Dieu sur la terre comme elle est faite au ciel. Pas juste de dire cela et de s'imaginer que nous allons pouvoir le faire d'une manière ou d'une autre, mais d'arriver vraiment à cerner, à comprendre, bibliquement parlant, en quoi nous ne pouvons pas la faire et comment seulement nous pouvons la faire. Pour que ce soit bien clair dans nos esprits, afin que lorsque nous prions de manière éclairée, et que ensuite nous puissions être inspirés dans notre intelligence à demander les choses dont nous avons besoin, réellement, parce que alors nous serons conscients à la fois de nos besoins, tant de nos impossibilités que des choses que nous pouvons faire par les moyens que Dieu nous a fournis. Ça que nous cherchons à élucider. Et donc, pour revenir à ce que je disais, à la fois, à savoir que l'homme inconverti accomplit pas simplement les désirs de la chair, mais les désirs de ses pensées, vous lisez dans Éphésiens chapitre 2, verset 3. Verset 1, le contexte, il disait, « Et vous qui étiez morts dans vos fautes et vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, etc., selon le train de ce monde, selon le prince du pouvoir de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Comment, selon ce passage ici, est décrit la nature physique et morale des enfants de colère, des fils de la désobéissance? C'est que, comme c'est marqué au verset 3, selon les convoitises de la chair, ils accomplissent les désirs de la chair et de leur pensée. Vous voyez? Ça, c'est la nature telle que la Bible, la nature de l'homme inconverti, tel qu'il est mort dans ses fautes et ses péchés, à savoir qu'il accomplit les désirs de la chair et ses pensées sont en harmonie pour accomplir les convoitises de la chair. La chair et les pensées vont toutes deux dans la même direction. Vous le voyez? Or, tel n'est pas le cas de l'homme qui se décrit ici dans Romains chapitre 7, à savoir l'apôtre Paul, parce qu'il dit que, verset 21, « Je trouve donc cette loi en moi, c'est que lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, mais il dit, je veux faire le bien. » Alors que la personne dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, c'est les désirs de sa pensée, en les accomplissant, c'est l'accomplissement des convoitises de la chair. Vous avez vu ici, ça va dans la même direction. Alors qu'il n'en est pas de même de cet homme-là qui parle ici, dans Romains chapitre 7. Il dit, je trouve donc cette loi en moi, c'est que lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Vous voyez? Cet homme-là n'est pas pareil que l'homme de Éphésiens chapitre 2, versets 2 et 3. Il n'est pas pareil, parce que cet homme-là prend plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais il a également une autre loi dans ses membres qui combat contre la loi de son esprit, le rendant captif sous la loi du péché qui est dans ses membres. Vous le voyez? Il s'agit ici d'une autre personne, une personne qui a fait l'expérience de ce qui est exprimé dans Romains chapitre 12, verset 2, à savoir, « Et ne vous conformez point à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, acceptable et parfaite. » Vous voyez ? Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez éprouver et apprécier la volonté de Dieu qui est bonne, acceptable et parfaite, afin que vous puissiez croître dans la connaissance de la parfaite volonté de Dieu. Vous voyez, donc cette personne-là est convertie et c'est celle-ci qu'était l'apôtre Paul lorsqu'il se vit confronté à ce combat entre la chair et l'esprit, entre l'homme intérieur et le vieil homme, la chair humaine, pécheresse. Vous le voyez, la loi dans ses membres, la loi du péché, comme c'est marqué au verset 23, à la fin. Donc, on peut conclure ici, par déduction intelligente, et vous le voyez à travers toutes les autres déclarations que vous pouvez trouver ou chercher dans la parole de Dieu et l'esprit de prophétie, nous pouvons conclure, que même l'homme qui a goûté au renouvellement de ses pensées par l'esprit de la grâce de Dieu, même cet homme-là a lui-même a un combat à livrer dans lequel l'exercice de ses propres décisions et de sa volonté est indispensable pour l'accomplissement et pour l'exaucement de la prière pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez ? Même s'il a été renouvelé, même cet homme-là qui a été renouvelé dans son esprit par l'esprit de la grâce de Dieu, l'huile, même lui a un combat à livrer. Et dans ce combat, il faut qu'il exerce, fasse preuve de ses propres décisions et de sa propre volonté pour accomplir cette prière qui demande que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Nous allons élargir cela. Et donc, dans Romains chapitre 16, chapitre 7, nous continuons. Nous avons lu le verset 21, verset 23. Ça, c'est très bien. Et nous voulons continuer par les versets 24 et 25 pour savoir quel échappatoire et quelle solution est exprimée par l'apôtre Paul pour, et je devrais dire, à ce conflit-là, qu'il exprime ici à partir du verset 7. Il commence à parler de ce conflit entre la loi dans ses membres et son désir de faire le bien, mais qu'il ne peut pas réellement accomplir parce qu'il voit que sa nature va à l'encontre de son désir. Vous voyez ? Et donc, que dit-il ? Qu'exprime-t-il comme échappatoire et comme solution à cette impasse dans laquelle il se trouve en tant même comme qui a été converti et dont les pensées ont été renouvelées parce qu'il exprime qu'il prend plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Quel est l'échappatoire et la solution? Il l'exprime ici au verset 24. Au verset 23, nous avons lu, il dit, je vois cette autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit. Hein? N'importe quel chrétien peut attester de ce combat entre, d'une part, le désir de faire la volonté de Dieu qui est juste, pure, bonne, agréable, parfaite, etc., etc. Et d'un autre côté, une motricité dans notre nature qui cherche à satisfaire un autre désir contraire, hein? Une dynamique opposée qui est également active. C'est ça qu'il exprimait. Une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Captif, il se sentait esclave de cette dynamique opposée dans sa nature duelle entre son esprit renouvelé et converti et sa chair, sa nature humaine avec ses passions, ses désirs, ses convoitises, etc., etc. Et que disait-il? Il disait, ô misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Ou comme c'est marqué dans notre version, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est un corps de mort parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et si c'est un corps qui mène à et qui nous rend esclaves à la loi du péché, c'est un corps qui mène à la mort. C'est un corps de mort. Vous voyez ce qu'il exprime ici? C'est l'expression d'un juif qui connaît parfaitement les rouages de la nature humaine telle que la parole de Dieu la révèle, et il dit « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il sait que le péché est inséparable à la mort, parce que Dieu, dans Genèse chapitre 2 disait à nos premiers parents que le jour où vous mangerez de cet arbre, que tu mangeras de cet arbre, certainement tu mourras. Le péché, depuis la Genèse, est comme cela avec la mort. La mort et le péché sont inséparables. L'un ne peut aller sans l'autre. Là où le péché est, la mort est. Là où la mort est, c'est que le péché a été. Qui me délivrera de ce corps de mort? Et que dit-il? Verset 25. Que dit-il? Réalistement, d'une manière tout à fait réaliste, Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis donc assujetti moi-même par la pensée à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. Donc il dit, il n'a pas changé la donne, il dit, c'est le fait est que ça ne peut pas être changé. C'est, ce combat sera toujours là tant que je suis dans ce corps de mort. Je serai toujours confronté à ce combat, mais il dit, je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Pourquoi dit-il, je rends grâce à Dieu? Est-ce que cela veut dire, bon, j'ai toujours les mêmes problèmes, j'échoue, je ne fais pas la volonté de Dieu, mais je rends grâce à Dieu? C'est pas ça que ça veut dire. Il dit, je rends grâce à Dieu parce que j'ai été délivré de cette dynamique dans laquelle je suis sans cesse assujetti à la volonté de la chair et de l'homme et du péché. Il dit, je rends grâce à Dieu parce que j'ai trouvé une issue. Comment ? Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'il dit, je rends grâce à Dieu ? Par Jésus-Christ. Allez-y avec moi dans Luc chapitre 22. Luc. Chapitre 22, versets 39 et 42, c'était dans notre lecture biblique, mais cette fois-ci légèrement élargie. Luc 22, verset 39, je lis. Puis Jésus étant sorti, s'en alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Et aussi ses disciples le suivirent, et quand il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous n'entriez point dans la tentation. » Alors il s'éloigna d'eux d'environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait en disant, « Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois, que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. Toutefois, que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. Qu'est-ce qui est en Jésus-Christ qui nous fournit à la fois l'inspiration et la force pour, je cite, faire le bien en dépit de cette autre loi dans nos membres? Qu'est-ce que Jésus ici nous révèle dans son exemple de ses souffrances, de sa vigilance et de ses prières? Il disait, alors qu'il désirait être délivré de cette vocation à porter le péché du monde entier, que disait-il? Non pas, j'ai envie que cette coupe soit éloignée de moi, je ne veux pas la boire. Toutefois, non pas ma volonté, que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. Mais la tienne. Et ensuite, au verset 43, il nous disons, « Et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, et étant en agonie, il priait plus instamment, et il lui vint une sueur comme des grumeaux de sang qui tombaient sur la terre, et s'étant levé de sa prière, il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous. Et priez de peur que vous n'entriez en tentation. Levez-vous et priez de peur que vous n'entriez en tentation. » Est-ce que Jésus était en train de leur exprimer quelque chose qu'il avait lui-même fait? Lui-même avait veillé, lui-même avait prié. Et qu'avait-il dit et exprimé de manière tout à fait réaliste lorsqu'il avait prié à Dieu auquel les disciples étaient également appelés à prier, il avait dit, alors qu'il était enclin à vouloir une certaine chose, il avait renoncé à sa propre volonté, il avait dit, quoiqu'il aurait voulu que cette coupe du péché du monde entier s'écarte loin de lui, il avait dit toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. La tienne. Et nous, en tant que pécheurs, et en tant qu'étant naturellement enclin, selon la loi du péché, assujettis selon la loi du péché, au péché même, nous sommes également enclins à faire le mal, comme l'apôtre Paul le disait dans Romains chapitre 7. Et nous avons cette révélation, Jésus, de la soumission à Dieu afin de pouvoir faire le bien que nous voulons faire, mais que nous n'avons pas la force de faire, le moyen et le renoncement. Le renoncement. C'est par le renoncement dont Jésus nous a été donné en exemple, et à travers son exemple, il nous est donné une puissance, qui est la puissance du Saint-Esprit, qui était la sienne également, afin que nous puissions faire exactement ce qu'il a fait. Comme c'est marqué dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous y marchions. Les œuvres sont préparées en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Si nous suivons l'exemple de Jésus en disant « Je suis enclin à faire ça, mais j'ai envie de faire ta volonté et donc maintenant je vais décider. Maintenant je vais décider de faire ta volonté. » C'est d'ailleurs, j'aurais dû avoir cette citation qui nous dit dans Child Guidance à la page 209 que la volonté est une force. La volonté est la force déterminante dans l'homme pour le bien ou pour le mal. Donc, comme l'apôtre Paul disait, d'un côté, selon la pensée, je suis... nous y repartons. Dans Romains chapitre 7, verset 25, il disait « Je suis donc assujetti moi-même par la pensée à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. » Vous voyez ? Et donc, qu'est-ce qui va être le facteur déterminant pour faire en sorte que nous puissions satisfaire la loi de Dieu par notre assujettissement à celle-ci dans notre pensée et non pas la chair et la loi du péché? C'est la faculté de choix et de décision. Donc, c'est comme un gouvernail. Notre capacité à choisir est comme un gouvernail qui, quoi qu'il soit tout petit, peut changer totalement la direction d'un navire qui est extrêmement lourd et que rien d'autre ne pourrait changer. Vous voyez ? Rien d'autre ne pourrait changer la direction de ce navire si ce n'est le gouvernail qui est tout à l'arrière, qui est symbolique et qui illustre notre capacité de décision. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a donné un exemple de l'abnégation en ce qu'il a lui-même exercé son choix pour faire le bien. Et moi-même, je n'ai pas, comme lui-même n'avait d'ailleurs pas la capacité naturelle de faire le bien, mais en devenant participant de la nature divine, à travers Jésus-Christ, car c'est lui qui est le carrefour de notre salut, en devenant participant de la nature divine par Jésus-Christ, nous pouvons ensuite rendre grâce à Dieu pour une vraie délivrance. Une délivrance palpable, en ce que nous réalisons que le bien que nous n'arrivions pas à faire, nous l'avons maintenant fait, en remettant notre volonté à Dieu, comme Jésus l'a fait. Jésus disait, ma nature a envie d'une chose, c'est de fuir. Je vais abandonner cette race. Je ne veux pas de son péché chargé sur moi. Je ne veux pas. C'est comme ça que Jésus se ressentait en lui. Il ne voulait pas faire le bien. Sa nature ne voulait pas faire cela, ne voulait pas faire ce sacrifice. Et nous, naturellement, nous également, notre nature ne veut pas faire le sacrifice de nous-mêmes pour faire la volonté de Dieu. Et donc, c'est ainsi que nous pouvons et nous sommes appelés à suivre son exemple, à marcher dans ses traces, afin que nous puissions faire la volonté de Dieu qui, jusqu'alors, il nous était impossible de faire. Et donc, ce que j'ai marqué, c'est que Jésus nous a donné un exemple de l'abandon à Dieu, de notre volonté naturelle, afin de faire et d'accomplir la volonté de Dieu. Plus encore, en Jésus-Christ, nous avons une révélation divine du caractère de Dieu. Dans son abnégation et son obéissance au Père. Et c'est en recevant et en reproduisant dans notre propre vie cette obéissance que nous pouvons, avec l'apôtre Paul, rendre grâce à Dieu pour la délivrance de l'esclavage à la loi du péché qui agit dans nos membres. Voilà, frères et sœurs, j'avais encore plein de choses dans Jean chapitre 1, verset 1, 2, verset 14, 11 à 13. Vous voyez que lorsque nous avons la parole de Dieu en nous, telle que la parole de Dieu a été faite chair et a habité parmi nous, au verset 14 de Jean chapitre 1, cette parole de Dieu faite chair en nous sera le moyen de notre salut. Hein? De la même manière que lorsque la parole a été faite chair, il était Emmanuel, Dieu avec nous. Il était Yeshua, Dieu sauve. Et lorsque la parole est faite chair en nous, lorsque nous nous inspirons de la parole de Dieu, comme nous sommes ici en train de le faire, de manière concrète, eh bien nous obtenons alors le moyen concret par lequel nous pouvons vaincre le péché dans la chair. Et ainsi, donc, nous pouvons exaucer notre propre prière que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Comment la volonté de Dieu a été faite depuis que nos premiers parents sont déchus? De manière suprême, comment a-t-elle été faite sur la terre? Lorsque Jésus est venu, la parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. C'était cette lumière. Il était la vie des hommes, etc. Et il n'a point fait sa volonté. Et j'ai marqué qu'en nous nourrissant de l'exemple de Jésus révélé dans la parole, nous naissons d'en haut. Allons-y brièvement. Nous naissons d'en haut dans Jean chapitre 1. Je vais conclure avec cela. Jean chapitre 1, verset 11 à 13. La parole, cette lumière, la véritable lumière, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, pas juste le droit, mais le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, ceux qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ceux qui sont nés, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau, Dieu leur a donné ceux qui ont reçu, qui reçoivent Jésus-Christ, qui l'acceptent dans son autorité, à la fois sur nos péchés et sur nos échecs, pour nous donner la victoire, il leur donne, leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir d'être nés de nouveau, afin de pouvoir faire sa volonté. Ils ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Comme Jésus disait à Nicodème, si tu ne nais d'en haut, tu ne peux entrer, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Si tu ne nais d'eau et d'esprit. L'eau, c'est celle qui, c'est la représentation, non seulement du baptême, mais de la parole de Dieu. La parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu est censée nous donner une nouvelle naissance, et par cette nouvelle naissance, nous renaissons en nouveauté de vie pour faire non plus notre volonté, mais la volonté de Dieu. Et toutes ces choses sont liées les unes aux autres et nous permettent d'avoir un concept plus tangible du sens de la prière que Jésus a placée sur nos lèvres en tant qu'un modèle des prières et de l'esprit qui devrait nous animer lorsque nous nous adressons à Dieu. Frères et sœurs, je prie, j'espère que cette méditation vous aura été profitable, enrichissante et puissions-nous nous inspirer. Je vais fournir plein de citations que je n'ai pas eu le temps de lire aujourd'hui, comme à mon habitude dans la description. Et puissions-nous nous inspirer à la fois de ces révélations que nous avons traversées dans la parole de Dieu aujourd'hui et de celles qui sont également fourni dans les déclarations de l'esprit de prophétie pour nous inspirer de cet exemple de Jésus afin de faire non point notre volonté, celle de la chair, celle de ses convoitises, ses désirs, ses passions, mais la volonté de Dieu, celle qui, selon Romains chapitre 12, est bonne, agréable, acceptable, édifiante et parfaite. C'est ma prière. Que Dieu vous bénisse, puisse Dieu nous bénir abondamment en nous accordant son esprit pour nous souvenir et nous enrichir et nous inspirer et nous encourager à faire comme ces anges font au ciel lorsqu'ils font toute sa volonté et qu'ils exécutent ses commandements et qu'ils obéissent à la voix de sa parole. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.